La 4G, c'est top, mais qu'est-ce que je peux en faire vraiment?
En profiter à fond. Avec les formules carrées 4G de SFR, l'abonnement à l'application de votre choix est inclus.
Ah, super! Mais c'est quoi comme appli?
C'est vous qui choisissez, parmi les 5 extras de SFR. Kikoyote ou Canal Play, par exemple.
Ah, oh, c'est génial!
On préfère dire que c'est extra, et c'est à partir de 30,99€ par mois seulement.
Prix sans mobile du carré 4G 3Go avec engagement de 12 mois valable jusqu'au 31 décembre. Réseau 4G sous réserve de couverture avec offre et terminal compatible. Conditions sur sfr.fr.
SFR, carrément vous.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le magazine Pèlerin, à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de Blois, consacre un numéro spécial à la Grande Guerre, un sujet sur lequel Franck Ferrand va revenir assez souvent dans un proche avenir. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est vrai que nous nous acheminons à grands pas vers les commémorations et les anniversaires de ce centenaire, hein, 1914-2014. Considérons cette émission, si vous voulez, comme un préambule ou un avant-propos. Nous allons y évoquer les cicatrices de la Grande Guerre.
Et dans un instant, vous allez nous raconter l'histoire du soldat inconnu.
Oui, comment a-t-il été choisi, dans quelles circonstances et avec quelles difficultés? Le sujet a été traité magnifiquement au cinéma par Bertrand Tavernier, dans un beau film qui s'appelait « La vie et rien d'autre ». C'est cette atmosphère si particulière que je vous propose de retrouver tout de suite.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il y a 50 ans, pour ce qui était alors le cinquantenaire de la Grande Guerre, le général Weygand écrivait « Donner une tombe, un signe à un combattant anonyme qui serait le fils de toutes les mères qui n'ont pas retrouvé leur fils ». L'idée prit naissance en France, c'est en ces termes émouvants, dans leur simplicité, qu'un homme de cœur la formula et la répandit. Cet homme, il s'appelle Simon, il est le président du Souvenir français de Rennes, et le 20 novembre 1916, j'insiste sur la date, on est encore à l'époque évidemment en pleine guerre, ce Simon propose de rendre hommage, à travers un soldat inconnu, à tous les disparus anonymes de la guerre. Il faut dire que la guerre devient de plus en plus meurtrière et qu'on se rend compte qu'un très grand nombre de morts ne peuvent pas retrouver leur identité. L'idée est d'inhumer au Panthéon les restes d'un soldat qui serait, et voilà exactement les termes qu'emploie notre président breton du Souvenir français de Rennes, il propose que le soldat en question soit pris au hasard parmi les tombes anonymes. L'idée va faire son chemin, évidemment. En 1918, le président de la Société française de Berne, Monsieur Cressitz, et puis, j'ai envie de dire surtout, parce qu'il va faire beaucoup de bruit autour de cette idée, Maurice Monoury, qui est le député d'Eure-et-Loir, vont revenir sur ce projet, mais dans un premier temps, on peut dire que tout le monde se montre assez dubitatif. Et c'est en 1919 qu'une nouvelle demande est formulée à l'occasion du célèbre défilé de la Victoire, vous savez, le défilé du 14 juillet 1919. À ce moment-là, les anciens combattants, qui sont devenus un véritable parti en soi, se mobilisent. L'écrivain Binet Valmer, le vice-président de la Ligue des chefs de section, et puis aussi le député de Paris, André Pézan, tous ces gens-là se mettent ensemble pour donner un peu plus de poids à la demande et ils vont obtenir le soutien de plusieurs journaux, au premier rang desquels l'Intransigeant et Le Matin. La même année, le journal Le Poilu, lui, s'était montré particulièrement réticent à cette idée. L'ex-poilu de deuxième classe, militant socialiste de première classe, si je puis dire, et directeur du journal Le Poilu, il s'appelle Raphaël Ferrotin, a demandé aux autorités, je cite, « de ne pas toucher aux morts. Vous feriez mieux, écrit l'éditorialiste, vous feriez mieux de prendre une pelle et une pioche et d'aller enterrer dignement ceux qui attendent encore à Verdun et en Champagne, qu'on leur assure la paix éternelle. Et puis, méfions-nous, nous ne voulons pas qu'au nom de ces morts, vous fassiez oublier les vivants. » Il ne faut pas oublier que les revendications des anciens combattants d'alors sont très importantes. On demande des primes, on demande des pensions, et non pas forcément, ou en tout cas non pas uniquement, de grandes cérémonies commémoratives. C'est intéressant de voir comment les Anglais, de leur côté, font le chemin inverse, hein, puisque l'idée est venue plus tard en Angleterre, mais elle a été immédiatement acceptée, admise. En octobre 1920, le Parlement anglais décrète que l'inhumation d'un soldat inconnu aura lieu le 11 novembre en l'abbaye de Westminster. Et alors là, en Angleterre, autant en France le sujet fait débat, autant en Angleterre c'est l'unanimité autour de ce projet. Depuis le début de la guerre, disons-le, on n'a cessé de chercher à rendre hommage à ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Dès le 31 décembre 1914, alors que la France a déjà perdu plus de 350 000 hommes, plusieurs décisions vont être prises pour essayer de rendre hommage à ceux qui sont en train de se battre pour le pays. On a évidemment un certain nombre de projets, notamment de tombes commémoratives, collectives, etc., qui vont voir le jour dans tout le cours de l'année 1915. La grande notion, c'est l'appellation, enfin c'est la notion de mort pour la France. Le 2 juillet 1915, la République institue, je cite, « l'honneur du nom de celui qui a donné sa vie pour le pays ». Il va néanmoins falloir attendre le 28 février 1922 pour voir naître la mention « mort pour la France », avec des conditions d'attribution qui sont évidemment très strictes, ne bénéficient pas, si j'ose dire, à titre posthume de cette appellation n'importe qui. Il faut que ça ne concerne que des combattants qui sont tués à l'ennemi et qui l'ont été pendant la période officielle des hostilités, c'est-à-dire du 2 août 1914, ça c'est une date que personne ne contestera, jusqu'au 24 octobre 1919. Et ça c'est déjà plus étonnant. Pourquoi le 24 octobre 1919 ? Eh bien, c'est l'apparition au journal officiel du décret déclarant la fin officielle des hostilités. Vous voyez qu'on est quand même plusieurs mois après le traité de paix. Par ailleurs, en dehors de cette mention mort pour la France, on a vu naître des livres d'or. Dès le 8 octobre 1914, une première liste du livre d'or de l'université est publiée dans le bulletin administratif du ministère de l'Instruction publique. Il s'agit de rendre hommage aux soldats morts pour la France. On va voir se multiplier également les plaques un peu partout. Et puis, on commence à s'interroger sur le sort des champs de bataille qui deviennent des lieux historique en quelque sorte, et ça nous allons y revenir pendant tout le cours de cette émission évidemment, ce que vont devenir les champs de bataille, avec notamment le travail de la commission des vestiges et souvenirs de guerre qui va constamment examiner les lieux et décider du classement d'un certain nombre de ces champs de bataille. Vous verrez qu'en vérité, assez peu ont été classés, mais enfin je ne veux pas déflorer ce que nous dirons tout à l'heure. C'est dans cette logique d'hommage que s'inscrit évidemment en 1919 le principe de commémoration pour les soldats, cette idée française de donner une tombe à un combattant anonyme, un combattant qu'on n'a pas pu identifier, et à travers lui, bien entendu, ce sont tous les autres qu'il s'agit d'honorer.
Europe 1, 14h, 15h.
Au cœur de l'histoire,
Franck Ferrand.
Et on continue à découvrir avec vous, Franck Ferrand, l'histoire du soldat inconnu.
C'est en 1920 qu'on va donc honorer le soldat, qu'on va choisir d'abord, et pour la première fois honorer le soldat inconnu. Et dès septembre de cette année-là, on commence à penser à la célébration du cinquantenaire de la République. Et oui, il ne faut pas oublier que la Troisième République est née sur les décombres de Sedan en 1870, et donc on est en train de fêter le 50e anniversaire de cette République. Et l'on choisit pour le faire la date du 11 novembre qui a été celle de l'armistice. Fin octobre, un certain nombre de personnalités vont essayer de profiter de la circonstance et vont demander que, à l'occasion de cette fête du 11 novembre, on mette en avant le soldat inconnu. Le président du Conseil, Georges Legge, à l'époque, n'est pas favorable à cette idée parce que, pour lui, le 11 novembre doit être un jour de joie, un jour de liesse collective et non pas un jour de recueillement et de commémoration funèbre. Finalement, mais très tardivement, tout début novembre, aussitôt après la Toussaint, il finit par plier et il ne plie que sous la pression de l'opinion, c'est-à-dire qu'il s'agit surtout d'éviter des manifestations massives d'anciens combattants qui commencent à très mal prendre les réserves du gouvernement. Or, justement, ce 3 novembre 1920, le gouvernement choisit, pour dernière demeure du soldat inconnu, choisit le Panthéon. Et là encore, ça ne fait pas l'unanimité. On est en France, que voulez-vous ? Voici ce qu'écrit Henri de Jouvenel dans Le Matin. « Ne l'enfermez pas, ce soldat, dans la froide solitude de ce monument devant lequel le visiteur hésite. Portez-le au sommet de l'avenue triomphante, au milieu de ses quatre arches ouvertes sur le ciel. Laissez le Panthéon aux écrivains, aux savants, aux hommes d'État. » Et c'est une opinion qui est largement partagée, au point que le 8 novembre, le gouvernement finisse par revenir sur sa décision et accepte que la dépouille du soldat inconnu soit donc inhumée sous l'arc de triomphe. Évidemment, Il est prévu néanmoins de faire une célébration au Panthéon. Le soldat inconnu doit être accompagné par le chœur de Gambetta avant d'aller à l'étoile. Mais ça, ça ne passe pas, évidemment, parce que Gambetta n'est pas une personnalité consensuelle. Il s'en faut de beaucoup. L'idée de célébrer dans un même jour les morts anonymes et d'une façon plus générale tous les morts du dernier conflit et puis les 50 ans de la République, cette idée ne passe pas du tout. Elle voit se hérisser contre elle toute une partie de l'opinion et finalement donc gouvernement décide de bien dissocier les deux événements. Néanmoins, c'est bien le 11 novembre 1920 que sera inhumé ce soldat inconnu. Alors il reste à le choisir, il reste à le désigner ce soldat inconnu. Un télégramme est envoyé au commandement des 9 champs de bataille désignés pour faire exhumer, voilà ce que demande le télégramme, pour faire exhumer dans un endroit qui restera secret le corps militaire dont l'identité comme français est certaine, mais dont l'identité personnelle n'a pu être établie, et de le faire transporter en automobile à Verdun. Ça pose toutes sortes de difficultés, vous pouvez l'imaginer, voyez le travail à la fois fastidieux et assez terrible, bien entendu, qui incombe aux responsables des différents champs de bataille. On ouvre les tombes, des milliers de corps gisent entremêlés, des cadavres français et allemands parfois mélangés, il faut bien le dire, ou d'autres nationalités, bien entendu. Finalement, seuls 8 corps considérés comme incontestables, si je puis dire, sont rapatriés à Verdun le 9 novembre. L'un est sorti de la terre lorraine, un autre est tombé sous les murs de Verdun, le troisième était enseveli en Champagne, un quatrième a été tué au chemin des Dames, le cinquième venait d'Île-de-France où il a sans doute succombé parmi les premières victimes de ce conflit, le sixième dormait sur le champ de la bataille de la Somme, le septième était en Artois et le dernier a été recueilli dans les Flandre. Il avait reçu un coup mortel sur les bords de l'Isère, enfin tout près de là. Les dépouilles sont transportées à la citadelle de Verdun et il va maintenant falloir les désigner. Alors pour cela, eh bien on va faire appel à un soldat innocent, en quelque sorte la main innocente du soldat lambda. Alors on essaie de choisir un soldat qui soit le plus représentatif possible, bien entendu. Dans un premier temps, un soldat antillais. C'est un Martiniquais de Fort-de-France qui doit choisir. Et puis, est-ce que c'est la pression qui pèse sur ses épaules? Le pauvre tombe malade, il est visiblement victime d'une typhoïde, il faut donc choisir quelqu'un d'autre. Alors le choix va se reporter sur Auguste Thin. Auguste Thin se trouve être le plus jeune engagé volontaire de l'année 1918. Or, son propre père est mort au combat. Il fait partie, comme son camarade martiniquais d'ailleurs, il fait partie du 132e régiment d'infanterie. C'est lui qui va se voir désigné pour choisir, en quelque sorte, le corps d'un de ses camarades, celui qui reposera désormais sous l'Arc de Triomphe. C'est lui qui va faire, si je puis dire, le soldat inconnu. Le jour de cette élection funèbre, on a installé une chapelle ardente, tendue de drapeaux. Il y a les 8 cercueils qui sont là, 8 cercueils de chêne cru recouverts de l'étamine tricolore, évidemment. Le ministre des Pensions, le ministre qui s'occupe des anciens combattants, André Maginot, le célèbre Maginot, est là pour présider la cérémonie, appuyé sur 2 cannes en invalide qu'il est lui-même. Il s'avance, accompagné d'un autre membre du gouvernement, qui lui aussi est mutilé, et d'un certain nombre de députés anciens combattants, du gouverneur de la place, de l'évêque de Verdun, de pas mal de veuves et de mutilés. Il s'arrête devant Auguste Thin et voilà les mots qu'il prononce. « Soldat, voici un bouquet de fleurs cueilli sur le champ de bataille de Verdun parmi les tombes de tant de héros inconnus. Vous allez le déposer sur un de ces 8 cercueils et c'est le soldat désigné par vous que le peuple de France accompagnera demain du Panthéon à l'Arc de Triomphe, suprême hommage de la nation, le plus beau que la France ait jamais réservé à l'un de ses enfants, mais qui n'est pas trop grand pour celui qui symbolise et perpétue la vaillance française et dont le sacrifice anonyme a sauvé la patrie, la justice et la liberté du monde. »
Thank you.
On écoutait Oswald Andreas, un extrait du générique du film La vie et rien d'autre, film de Bertrand Tavernier sorti en 1989.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et au cœur de l'histoire, cet après-midi, nous nous intéressons aux cicatrices de la Grande Guerre. Et vous nous contez l'histoire du soldat inconnu, Franck.
Il faut l'imaginer, notre Auguste Thin, il a 19 ans, ce gamin, si je puis dire. Et c'est lui qui doit déposer donc le bouquet cueilli à Verdun sur la bière du soldat qui va devenir le soldat inconnu. Alors il a les yeux rivés sur les cercueils, il est d'une gravité, vous imaginez, la solennité de l'instant. Il fait deux fois le tour de l'ensemble des cercueils. Il hésite, il va choisir le cercueil d'une façon assez simple, il faut bien en trouver une. Je vous ai dit qu'il faisait partie du 132e régiment d'infanterie. Eh bien, il va additionner les chiffres de ce 132, 1 plus 3 plus 2, ça fait 6. Il dépose les fleurs sur le 6e cercueil. Il se redresse au garde à vous. Cette fois, ça y est, le soldat inconnu vient d'être désigné. La Marseillaise retentit, le canon tonne, les cloches sonnent. Le cercueil de chêne est emporté sur un brancard hors de la citadelle. Il y a une femme, à ce moment-là, au moment où il sort, qui surgit de la foule, qui vient baiser le cercueil. La foule attend, en nombre surtout, à la gare de Verdun, là d'où le cercueil va prendre le train pour aller jusqu'à Paris. Quant aux 7 autres cercueils, eh bien, ils resteront là, sur place, et ils seront réinhumés à Verdun. Le cercueil élu, si je puis dire, est donc chargé dans le fourgon du train ministériel tapissé de voiles blancs. Il arrivera à Paris à minuit, à la gare d'Enfer-Rochereau à l'époque. Il est veillé par les anciens combattants dans une chapelle ardente édifiée juste en face du lion de Belfort. Tout un symbole, hein, ce lion de la résistance aux Prussiens de 1870. Et nous en arrivons à ce 11 novembre 1920, donc le surlendemain. La célébration commence à 10h au Panthéon. Près des autorités, il y a une famille qui a perdu un fils pendant la guerre, mais une famille évidemment dont on n'a pas réussi à identifier l'enfant qui pourrait être en quelque sorte le père et la mère du soldat inconnu. Discours du président Mirand et puis l'inconnu part pour l'étoile. Toujours à côté du cœur de Léon Gambetta. En tête marchent les anciens combattants parés de leur croix. Ils sont suivis par toute une forêt de drapeaux frémissants portés par des officiers, encadrés par de vieux soldats. Évidemment, c'est toute une délégation extrêmement impressionnante qui va arriver à l'Arc de Triomphe. Le cercueil est tiré par 8 chevaux. Le soldat inconnu, une fois arrivé sous l'arc, est déposé dans une chapelle ardente au deuxième étage de l'Arc de Triomphe dans un premier temps. Et puis, à deux reprises, retentit la sonnerie au chant, puis la Marseillaise. Le chef de l'État salue, se retire. L'archevêque de Paris s'approche à son tour du cercueil. Il se recueille. Il bénit tous les morts de la guerre à travers la bénédiction même de ce cercueil, de ce soldat inconnu. Il y a, pendant les semaines et pendant les mois qui vont suivre cette cérémonie, toute une polémique en France parce que, évidemment, certains ne sont pas d'accord avec la forme de la tombe elle-même. Et puis, après tout, on voudrait une véritable tombe qui soit bien visible sous cet arc de triomphe. Le 24 novembre, le Conseil des ministres se dit qu'après tout, l'opinion n'a peut-être pas tort et l'on décide que le soldat sera inhumé, alors cette fois complètement au milieu même de la place sous l'arc de triomphe. Cette inhumation a lieu le 21 janvier 1921, dans une tombe définitive. Ce sont 6 sapeurs du génie qui vont déposer le cercueil du soldat inconnu au fond d'une fosse. Une fosse qui fait 8 pieds de profondeur. On a posé dessus une dalle avec cette inscription « Ici repose un soldat français mort pour la patrie, 1914-1918 ». Et l'année suivante seulement, le 11 novembre 1922, on viendra installer les 400 drapeaux de régiments dissous qui viendront s'incliner littéralement devant la dalle. Mais il reste encore une impression de frustration. Cette dalle, cette tombe est là, elle est lisse, elle est froide, tout le monde marche dessus. Il faudrait une autre idée. Et c'est Gabriel Boissy, qui est un journaliste, et qui propose l'idée d'une flamme qui brûlerait à l'emplacement lancement de la tombe du soldat inconnu. Un feu qui soit la palpitation, la présence de son âme qui brûle comme un perpétuel souvenir de chacun de nous, écrira-t-il. Eh bien, cette idée, elle fait son chemin. Et le 11 novembre 1923, c'est André Maginot, de nouveau, qui va avoir l'insigne honneur d'allumer le feu sacré en présence, bien entendu, de nombreux anciens soldats, d'anciens poilus. Jacques Péricard et le commandant Brunet proposent que le feu soit ranimé désormais chaque soir, à la nuit tombante. Ce sera un geste rituel qui sera effectué par des anciens combattants à tour de rôle. À partir de ce moment-là, on peut dire que l'Arc de Triomphe devient véritablement l'autel de la patrie, le sanctuaire dont la flamme ne s'éteindra jamais, le sanctuaire sur lequel viendra se recueillir, on peut dire, un pays entier chaque année et définitivement le 11 novembre. Dans un instant, en compagnie de Benoît Fidelin et de Jean-Yves Le Naour, nous reviendrons sur cette affaire du soldat inconnu, sur cette désignation du soldat inconnu, et puis nous parlerons d'une façon plus générale de toutes les cicatrices laissées par la Grande Guerre.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et on vous retrouve, Franck Ferrand, avec vos invités, Benoît Fidelin, grand reporter au magazine Pèlerin, qui consacre son numéro du 10 octobre en kiosque au magazine aux cicatrices de la Grande Guerre, justement, ainsi que Jean-Yves Le Naour, docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre mondiale. Et vous nous parlez des cicatrices de la Grande Guerre cet après-midi, ainsi et notamment que du soldat inconnu.
Les 9 et 10 novembre 1920, au moment de la désignation du soldat inconnu par ce jeune soldat, Auguste Thin, se trouvait présent le célèbre écrivain Roland Dorgelès, grand lui-même ancien combattant, chantre de la Grande Guerre. Voilà ce qu'il écrit, Roland Dorgelès. « Combien de fois, sous le gourbi, durant les longues nuits de veille, parla-t-il du retour, ce soldat inconnu qui va entrer dans l'histoire sous un masque ?» Leur visage rapproché, les yeux brillants, ses camarades et lui évoquaient avec fièvre ce jour d'impossible bonheur où il descendrait les Champs-Élysées sous les brasiers et sous les fleurs. Or, il ne les a pas connus, ces heures d'ivresse. Tandis que les glorieux bataillons traversaient Paris un matin de fête, il restait à son poste en première ligne. Pour lui, la guerre n'était pas terminée. Une fois encore, un commandement l'a arraché à son sommeil. Une fois encore, il a traversé ces villages de l'arrière, dont les façades démolies ouvrent sur le ciel de grands yeux vides. Une fois encore, un camion l'a emporté vers un nouveau secteur, où sans doute il avait combattu. Et il s'est retrouvé à Verdun, carrefour de la mort. Maintenant, le voici dans la vieille citadelle, dont la poitrine de pierre montre à nu ses blessures. C'est l'un des 8 revenants accouru à l'appel pour une mission suprême. Extraordinaire prose de Roland Dorgelès, Jean-Yves Le Naour. Il fait partie de ces grands écrivains de la Grande Guerre, si je puis dire.
Oui, tout à fait. Il est là, effectivement, à Verdun, le jour de la désignation du soldat inconnu, mais il est là aussi les jours précédents, les jours où on exhume des corps sur le champ de bataille de Verdun. Et il raconte qu'il a fallu exhumer, je crois, 16 corps pour en trouver un qui soit tout à fait anonyme, puisque selon les instructions, il fallait qu'il n'y ait absolument rien pour le reconnaître.
Donc, les 8 qui ont été placés donc, dans ces cercueils de chêne et parmi lesquels a eu à choisir Auguste Thin, ces 8-là sont, si je puis dire, des combattants français incontestablement. On peut en
oui,
être
incontestablement,
certain.
Parce que vous l'avez rappelé, au départ, il y en avait 9 et puis on en a exclu un parce qu'il y avait un petit doute sur sa nationalité. On ne voulait surtout pas mettre sous l'Arc de Triomphe un Allemand ou un Américain. Hein, mais évidemment, un Allemand, ça aurait été pire, alors qu'aujourd'hui, ce serait un formidable symbole.
Ça a été un moment symbolique entre tous que la désignation de ce soldat inconnu. Il l'incarne aujourd'hui encore, puisque à l'heure même où nous parlons, évidemment, on continue de ranimer la flamme constamment, évidemment. Il incarne les morts au combat, pas seulement ceux de la Première Guerre mondiale, du reste, Jean-Yves Le Naour.
Oui, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit inhumer un deuxième soldat inconnu qui représenterait les morts de la Seconde Guerre mondiale? Mais la force d'un symbole,
ceux c'est... d'autres conflits.
Oui, et d'ailleurs, il y a des soldats inconnus de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, de la guerre d'Indochine,
qui
sont en Artois, à Notre-Dame de Lorette. Voilà. Mais... ce soldat inconnu, donc la force d'un symbole, oui, finalement, c'est d'être unique, mais la flamme qui brûle sur ce soldat inconnu ne brûle pas nécessairement sur les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'en 1920, à cet âge nationaliste, patriotique, avec la victoire qui est derrière, on dit, oui, il faut se souvenir, il y a aussi la haine des Allemands qui est derrière, c'est un véritable héros. Et aujourd'hui, quand on se recueille devant la dalle glacée de granit sous l'Arc de Triomphe, on est horrifié. Aujourd'hui, on le voit plus comme un finalement comme une victime.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, Elia, ce que vous dites me fait penser à la conclusion de l'article de Roland Dorgelès que je lisais tout à l'heure. Il termine en disant « Ma pensée l'accompagne dans son tragique voyage, mais je ne le suivrai pas comme je l'avais projeté. J'ai peur de cette journée qui commencera par des marches funèbres et se terminera par des madelons. Je souhaiterais que le vent fidèle, le vent farouche, hurle sur le cortège en tordant les drapeaux, qu'il agite les crêpes, éteigne les torchères et que la veillée s'achève comme une nuit de guerre sous les larmes des fusées. Alors, muette d'effroi, la foule comprendrait peut-être la leçon de l'inconnu en voyant que sous le triomphe est creusé un tombeau. » C'est exactement la plainte des anciens combattants dès cette époque, puisque là, l'article, il date de la veille de l'inhumation, en vérité. Hein.
Oui, c'est magnifiquement écrit, et puis c'est aussi ce que vous avez dit. Le 11 novembre, ça devait être un jour de victoire, on devait commémorer la victoire, ça devait être un jour de triomphe. Et puis finalement, en inhumant un corps comme ça, sous l'arc de triomphe, c'est une sorte d'enterrement. Même si le soldat inconnu est un Christ patriotique, il s'est sacrifié pour que la patrie vive, donc c'est la patrie, ce sont des Pâques, hein, c'est la mort et la renaissance. Mais tout de même, le 11 novembre, ça sera la fête des morts, ça sera le jour où on se souviendra des morts pour la patrie, ça sera pas une fête victorieuse
oui,
et joyeuse.
C'est pour ça, j'avais employé au départ le terme de fête, et c'est plutôt celui de célébration qui convient, et ça est une célébration assez poignante qui a été un petit peu, pour ce qui est de la toute première en 1920, un peu parasitée par ce cinquantenaire de la Troisième République qui est venu se mêler à la cérémonie, au grand désespoir des anciens combattants et de leurs familles d'ailleurs, hein, qui protestaient contre cette espèce de récupération en quelque sorte. C'était deux fêtes distinctes en vérité qu'on a voulu fondre à l'époque.
Et oui, bon, il y avait c'était 1870-1920,
ben c'est ça, bien sûr, hein, oui.
C'était évidemment le retour de l'Alsace-Lorraine, on voulait montrer la victoire.
Et voilà. Et l'effacement de l'humiliation de 70.
Oui, hein. Et vous l'avez rappelé, la France est un pays de guerre civile depuis la Révolution française.
Mais oui.
Donc la polémique, évidemment. Mais la polémique, on la retrouve à plusieurs niveaux, même sur le lieu. Au départ, on pensait le Panthéon, mais le Panthéon, il y a Zola. C'est un lieu qui est marqué trop à gauche pour un certain nombre de députés de droite. Il faut aussi imaginer que la droite a gagné les élections de façon éblouissante. En 1919, c'est un raz-de-marée avec, et donc le Panthéon, ça ne passe pas trop.
Ce que vous montrez dans Pèlerin, Benoît Fidelin, vous êtes grand reporter et le numéro spécial de Pèlerin est précisément consacré à ces aspects-là, c'est qu'il y a eu justement des débats, des tensions au sein des familles pendant la guerre, après la guerre et surtout dans la façon de la commémorer en vérité. Il n'y a pas une unanimité de ce point de vue, loin de là.
Non, il n'y a pas forcément une unanimité dans la façon de la collaborer. Et puis il y a, je pense, des tensions au sein des familles, et puis une mémoire qui tarde à se faire un peu au sein des familles. Vous savez, on a interrogé Stéphane Audouin-Rouzeau, qui est un historien aussi de cette période, et qui dit que, excepté beaucoup d'écrivains, dont Roland Dorgelès, Barbus, Genevoix, et puis beaucoup d'autres, hein, beaucoup de poilus, beaucoup d'anciens combattants se sont tus. Vous savez comment c'est. Hein. Genevoix disait, nous avons connu l'incommunicable. Lui, elle va réussir à le communiquer. Nous avons connu l'incommunicable dans les tranchées. Et donc, il y a une difficulté, il n'avait pas les mots, il voulait oublier, il sentait qu'il leur était impossible de transmettre cette expérience d'une violence inouïe. Et leurs enfants, ils n'ont pas toujours compris leur sacrifice qui a été consenti. Vous savez, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, ils ont vu la Première Guerre comme un échec parce qu'elle n'avait pas empêché les malheurs futurs. Bon. Et il a fallu du temps, de l'apaisement pour que les petits-enfants, intrigués à la lecture des archives familiales, à la lecture aussi de romans, à la vision de films, s'intéressent à cette histoire.
Les cicatrices de la Grande Guerre sont donc dans le numéro de Pèlerin qui est sorti hier. Nous allons parler des cicatrices physiques, en quelque sorte, sur le territoire lui-même. Nous allons parler des cicatrices mentales. Et nous allons parler, bien entendu, avant tout, de la très grande cicatrice humaine de cette guerre, avec les pertes considérables qu'elle aura faites dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et puis tout ça, c'est terminé. Il paraît qu'on avait gagné. Ces messieurs fêtaient la victoire. Nous, on gisait dans les tranchées. Et pour conserver la mémoire de toutes nos vies sacrifiées, ils sont venus, ils m'ont emmené tout au bout des Champs-Élysées. Sur mon caveau, il y a une petite flamme pour laquelle on sort chaque année. Drapeau, clairon, tout l'attirail, on essaie de se faire pardonner. Merci messieurs, mais excusez, le pardon n'est pas bien facile. Vos belles couronnes ne rendront pas la vie à tous les sacrifiés.
On écoutait François Gaillard sur Europe 1 avec un extrait de son titre « Soldat inconnu ». Vous nous parlez aujourd'hui, Franck Ferrand, des cicatrices de la Grande Guerre, avec vos invités, Benoît Fidelin, grand reporter au magazine Pèlerin, qui consacre un dossier à ce sujet cette semaine, et Jean-Yves Le Naour, docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre mondiale.
C'est un paradoxe, Jean-Yves Le Naour, que cette guerre ait laissé tellement de mauvais souvenirs, tellement ancrés, on pourrait presque dire, dans la chair des familles françaises, et en même temps, on aime bien se la remémorer, en quelque sorte, et vous en êtes d'ailleurs la preuve. J'ai entre les mains votre grand album « La Grande Guerre à travers la carte postale ancienne » chez HC Éditions. Vous avez également publié une très belle « Grande Guerre en archives colorisées ». Ce sont des photos qui ne sont pas des photos couleurs, mais des photos qui ont été colorisées selon une technologie qui permet de retrouver les vraies couleurs, en quelque sorte. Ça, c'est chez Géohistoire. Et puis, on pourrait citer un grand nombre d'autres ouvrages. Je le ferai d'ailleurs, j'en citerai un certain nombre à la fin de cette émission, qui prouvent bien qu'il y a bien plus qu'une curiosité et un intérêt, il y a une très grande attention des Français à cette mémoire qui reste très vive en vérité. Les blessures sont à vif encore ?
Pas tout à fait. Il s'agit d'autre chose. Je pense que les blessures étaient vives dans l'entre-deux-guerres où la société est écrasée par le poids des morts. Il a fallu attendre, on peut dire, la libération 1944 pour que le deuil social disparaisse, que la France retrouve de l'optimisme, vraiment se tourne vers l'avenir. Alors que en 1919, elle était écrasée, elle regardait vers le passé, qu'elle appelait d'ailleurs Belle Époque.
600 000 veuves, 800 000 orphelins, hein, c'est colossal. Et toutes les familles touchées, toutes.
Toutes les familles sont touchées parce qu'un oncle, un cousin, voilà, un mari, un père, un fils, etc. Et pour citer Dorgelès, dans le texte que vous citiez tout à l'heure, il dit « Si les morts avaient défilé 1 300 000, 400 000 morts, si les morts avaient défilé sous l'Arc de Triomphe, il aurait fallu 11 jours et 11 nuits pour que le flot s'écoule. »
Et justement, on entendait cette bande originale du film de Bertrand Tavernier « La vie, rien d'autre », il fait dire ça à son personnage interprété par Noiret. Hein. « Si l'on avait, dans les conditions réglementaires de défilé, laissé passer toutes les victimes de cet épouvantable conflit, leur défilé n'aurait pas duré moins de 11 jours. » jours et 11 nuits, ça donne une idée de la foule immense des victimes de la guerre, bien entendu. Alors, sur un plan territorial, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui des cicatrices physiques, des cicatrices géographiques de cette Première Guerre mondiale ? Benoît Fidelin.
Eh bien écoutez, il y en a une partie de la mer du Nord jusqu'aux frontières de la Suisse. Hein. C'est quand même un front qui fait près de 700 kilomètres. Beaucoup de traces ont été enfouies naturellement parce qu'on a recultivé des terrains au fil du temps. Je pense à tout le front de la mer du Nord, le front de la Somme aussi. Mais il reste des cicatrices principalement dans un département qui est celui de la Meuse, où les deux tiers des communes ont été endommagées, parfois très gravement, parfois totalement détruites par la Grande Guerre. Il reste bien sûr le champ de bataille de Verdun, dont on va peut-être parler, qui a été aujourd'hui complètement
sanctuarisé
sous les arbres, et sur lequel il y a un projet d'ailleurs d'une forêt d'exception pour mieux garder la mémoire. Il y a là encore le site des Éparges. Il y a aussi plus à l'est, en Alsace, le Hartmannswillerkopf, le vieil Armand, et puis le champ de bataille du Linge, qui sont aussi des champs de bataille vraiment encore sauvegardés tels qu'ils étaient. Et puis il y a, même si ça a aussi beaucoup, beaucoup changé, parce que les grandes parcelles de grandes cultures ont pris la place, le chemin des Dames, qui reste un lieu de souffrance, où il y a encore des traces aujourd'hui.
Il y a aujourd'hui des associations, il y a des groupes d'archéologues, il y a toutes sortes de personnes qui continuent de s'intéresser à ce patrimoine de douleur, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Alors, notamment à Verdun, comme vous le savez, ça a été une guerre d'artillerie. Donc, vous avez des dizaines de milliers d'entonnoirs d'obus qui restent tout à fait visibles. Donc, pour essayer de garder intact, aussi pour y faire des tracés pédagogiques beaucoup plus intéressants, avec des outils numériques, pour faire mieux visiter, faire parler ce champ de bataille. Le forestier que j'ai vu là-bas m'a dit, mais à Verdun, c'est le sol qui parle toujours. Pour mieux transmettre ça aux nouvelles générations, il y a un projet, Verdun, forêt d'exception, hein, porté par la Fondation du patrimoine, pour essayer finalement de encore mettre en valeur ce champ de bataille sauvegardé, sanctuarisé tel qu'il est aujourd'hui.
Vous ne pensez pas qu'avec la quantité de célébrations qui sont en train de se préparer à l'occasion du centenaire de 1914, on va aller vers une forme de saturation un peu? Les gens vont finir par se lasser peut-être de ces commémorations dans tous les sens, de ces initiatives infinies et multiples?
Oui.
On ne risque pas d'avoir un effet de
trop
plein?
Tout dépend comment elles sont orientées. D'abord, c'est sûr, il va y avoir une profusion de livres, une profusion de célébrations. Mais qu'est-ce qui intéresse quand on va sur le terrain et qu'on rencontre des gens qui font parler ces vestiges-là? Notamment, j'ai rencontré Jean-Luc Demande. Jean-Luc Demande, il est président d'une association qui s'appelle Connaissance de la Meuse et il organise chaque année un son et lumière où il y a 22 000 personnes qui viennent pour raconter un peu la bataille de Verdun avec 500 bénévoles qui sont des jeunes. Et qu'est-ce qu'il nous dit, lui, qui est témoin de la mémoire aujourd'hui? Il nous dit ce qui intéresse les jeunes générations après un temps dont on a parlé de recueillement, de pèlerinage sur le lieu des combats. Ce qui l'intéresse, c'est de comprendre cette guerre à hauteur d'homme, savoir ce qu'ont vécu réellement les hommes dans les tranchées, quel était leur quotidien. Et ils se posent tous la question, qu'est-ce que j'aurais fait? Les jeunes générations se demandent comment ces gens ont pu endurer un tel sacrifice pendant 4 ans en se rebellant
à
peine.
C'est cette notion d'endurance
si on répond à ces questions-là au cours des commémorations, je pense qu'on intéressera les gens.
Vous avez cité plusieurs fois Maurice Genevoix, nous avons lu Roland Dorgelès, j'ai parlé de films, évidemment, on voit le succès de films comme Joyeux Noël ou comme Un long dimanche de fiançailles tiré du merveilleux roman de Sébastien Japrisot. On peut dire que ce patrimoine-là reste très très présent et très fort, Jean-Yves Le Naour.
Il y a un véritable retour de la mémoire de la Grande Guerre.
Qu'il y a eu une éclipse?
Il y a eu une éclipse. La Seconde Guerre mondiale a véritablement camouflé, dissimulé la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. Le héros, c'était le résistant. Et puis lui, il avait vaincu le nazisme réellement, alors que le poilu, il s'était battu pourquoi? Il avait fallu refaire la guerre 20 ans après. Était-il mort pour rien? Et beaucoup de soldats s'étaient même demandé pendant la guerre même, pourquoi nous combattons? Alors il restait toujours cette question, pourquoi ont-ils tenu, cette question qui taraude jusqu'à aujourd'hui. Mais la Grande Guerre depuis les années 80 fait son grand retour, vous l'avez dit, le film, les romans, on a compté 40 romans.
Romans
sur le thème de la Grande Guerre. Mmh. Alors que des années 50 aux années 80, on n'a compté que 8. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un retour.
Ah oui, un vrai retour.
Oui, un véritable retour. Alors comment l'expliquer tout ça? C'est assez difficile, les jeux et rejeux de la mémoire.
On est en train de préparer, évidemment, avec Europe 1, comme sans doute toutes les rédactions de France et de Navarre, on est en train de préparer ces commémorations de 1914. Et donc, on a des projets, etc. On contacte des gens et on se rend compte notamment de la force de la généalogie.
Oui.
Les plus jeunes gens d'aujourd'hui sont en train d'essayer de savoir qui étaient leurs ancêtres en 14, comment ils se sont battus, etc.
Mais sur les champs de bataille, d'ailleurs, il y a 250 000 personnes qui viennent à Verdun chaque année. Et bien, vous avez, les observateurs vous disent, vous avez des gens qui butent au cours de travaux généalogiques qui passionnent les Français sur un arrière-grand-père tombé à Verdun ou tombé aux Éparges. Cette généalogie les amène à retourner sur le champ de bataille. Mais je crois qu'à cette question, vous savez, il y a beaucoup d'historiens qui réfléchissent. Pourquoi est-ce qu'ils ont tenu ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils ont battu? On a aujourd'hui une part des réponses qu'il faut transmettre, notamment sur cette capacité de résistance des hommes à l'époque. Et puis, nous, on est allé voir, pour notre enquête, on est allé voir Jean-Pierre Rioux, qui est un historien, et qui disait que l'Europe
entière...
Oui,
qui est un habitué de cette émission.
Voilà, qui est un habitué. Qu'ils étaient persuadés quand même que cette guerre serait la dernière parce qu'en chassant Guillaume II, ils établiraient les conditions d'une paix universelle basée sur la démocratie. Et ça, c'était quand même quelque chose qui s'en soudait complètement les gens au cours du patriotisme.
Oui, je pense que ça ne concernait pas tous les poilus dans toutes les tranchées,
mais
il y avait sans doute cette idée-là.
Ça a été très fort et explique le consentement.
Excusez-moi, mais c'est vraiment l'idée au départ. Et c'est vrai qu'en 1916-1917,
ça s'était soufflé.
Les grands idéaux ont été salis par la boue des tranchées et puis le thème de la guerre contre la barbarie ne pouvait plus être valide à partir du moment où on avait compris que la guerre, c'était la barbarie.
La Grande Guerre à travers la carte postale ancienne de Jean-Yves Le Naour, c'est aux éditions HC, et puis également La Grande Guerre en archives colorisées, une grande guerre que vous racontez chez Géohistoire. Il y a un livre chez Perrin également qui doit sortir bientôt.
1915.
Je citerai également la suite. Entre 1914 et 1916, vous avez écrit 1915, c'est une bonne idée. La Grande Guerre en relief 14-18, c'est aux éditions Les Arènes, et ça c'est sous la direction de Jean-Pierre Vernet, c'est un livre européen. De même d'ailleurs que sous la direction de Jean-Noël Jeannenet, Jour de guerre, 1914-1918, les trésors des archives photographiques du journal Excelsior, également aux éditions Les Arènes. Et puis donc, c'est dans le numéro de cette semaine de Pèlerin qu'on retrouve cette grande enquête sur les cicatrices de la Grande Guerre. Merci beaucoup, messieurs.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez aujourd'hui, Franck, à la question d'Oumi via Twitter qui nous demande quelle est l'origine du mot hockey.
Alors oui, Oumit nous demande via Twitter l'origine du mot hockey, enfin de l'acronyme, ou je ne sais pas comment dire, de l'expression hockey. C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, et notamment on l'utilise beaucoup sur les réseaux sociaux et via les SMS, cette expression, ce hockey. Moi-même, j'en fais peut-être un trop grand usage du reste. Alors, il y a plusieurs possibilités. On a dit longtemps que ça venait de zéro killed. Vous savez, ce ne serait pas hockey, en fait, ce serait un zéro, puis un K, et ce serait l'habitude qu'avaient prise les sudistes au moment de la guerre de sécession, de noter sur les registres le nombre de victimes. Et quand il n'y avait pas de victimes sur une opération donnée, on mettait « zéro kill », donc c'est-à-dire « aucun tué au combat », donc ce serait l'origine de « hockey ». Pour tout vous dire, cette explication ne me satisfait pas vraiment, et elle me satisfait d'autant moins qu'on a, par ailleurs, des éléments tout à fait précis et concrets pour expliquer beaucoup plus directement l'origine de ce terme. En vérité, il s'agirait d'une faute d'orthographe à l'origine. Vous savez, c'est Andrew Jackson. On se moque gentiment de Andrew Jackson aux États-Unis. Il a été président des États-Unis de 1829 à 1837. Il avait été un héros de la Seconde Guerre d'indépendance. C'est un personnage très important. Et en 1790, dans un rapport, il aurait écrit « all correct ». Sauf que, au lieu d'écrire « all correct » à deux L et plus loin « correct », il aurait écrit ça « o » deux L, correct avec un K, K-O-2-R-E-C-T. Alors évidemment, ça s'est su en 1859 et c'est devenu une véritable plaisanterie universelle. On en a parlé partout. Ça a eu beaucoup de succès, cette histoire, et on s'est mis par dérision à écrire partout « all correct, O ». Et puis alors c'est même devenu, pendant les élections qui ont suivi, on s'amusait beaucoup avec ces initiales. Par exemple, on écrivait dans la presse « out of crash », à court d'argent, « out of credit » avec un K, ou bien « out of clothes », sans vêtements, également avec un K. Ce serait l'origine, en vérité, de l'expression. Il faut vous dire que même à cette époque, les démocrates avaient créé un club qui s'appelait les Democratic Hockey Club, qui soutenait leur candidat Martin Van Buren. C'est devenu une sorte de grande plaisanterie nationale et qui a eu un tel succès qu'elle est tout simplement entrée dans les mœurs et qu'on s'est mis à écrire « hockey » pour signifier que les choses allaient bien, qu'on était d'accord et qu'il n'y avait pas de problème. Voilà, Oumit, ce qu'on peut dire sur l'origine de cette expression. En tout cas, c'est celle qui a, comme vous l'aurez compris, toute ma faveur. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors on a plein de bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. On a surtout envie de vous aider à cultiver votre optimisme. Il paraît que ça nous aide à vivre plus longtemps et à vivre mieux. Alors, les experts Europe 1 sont là pour vous aider. Vous pouvez nous poser vos questions. 39-21, c'est 34 centimes d'euros la minute. Ou europe1.fr. En l'occurrence, notre expert, c'est Thierry Janssen. J'en dis pas plus. À tout de suite, Franck.
Merci beaucoup, Elena. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end, Céline. Et on se retrouve lundi, évidemment.
Très bon week-end, Franck, et à lundi.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.